Voigny. Cette semaine, Ilana Navarro rencontre Alice Cherki. Ce soir, l'éveil politique. Alice Cherki, merci de nous accueillir chez vous, dans votre bel appartement, aux alentours de la place de la Bastille, au cœur de Paris. Vous êtes psychiatre, psychanalyste et écrivaine. Vous êtes la première et la seule biographe de Frantz Fanon, psychiatre et écrivain, penseur politiquement engagé, considéré comme inspirateur du tiers-mondisme et des études postcoloniales. Vous avez publié sa biographie aux éditions du Seuil en l'an 2000. Vous êtes par ailleurs l'auteur de deux autres ouvrages, La frontière invisible, Violence de l'immigration, et plus récemment, Mémoire anachronique. Ceci évidemment sans compter avec votre participation à de multiples ouvrages collectifs, tous liés à votre parcours singulier. Alice Cherki, vous êtes née en 1936, vous avez grandi dans une famille juive dans l'Algérie coloniale. En tant qu'étudiante en médecine dans les années 50, vous vous êtes rapidement engagée en faveur de l'indépendance de l'Algérie. Et vous avez rencontré et travaillé avec Frantz Fanon, une expérience qui vous a marqué et qui a influencé votre travail en tant que psychanalyste en France.
Alors, avant de commencer, deux petites remarques comme ça au passage. Le livre que j'ai écrit sur Fanon, j'ai pas voulu l'appeler biographie, justement. J'ai voulu dire portrait, parce que je n'avais pas envie de faire une biographie du type. Telle personne était à tel endroit, il a fait ça dans sa petite enfance, ses parents étaient comme ça, il faisait tel métier, etc. D'une façon très linéaire et très... je trouve ça mortellement ennuyeux, aussi bien pour moi que pour Fanon. Je voulais surtout dégager ce qu'était l'homme, le psychiatre et l'homme engagé et son œuvre. Voilà. Et dans un parcours dans lequel je me suis permise aussi de décrire un passage sur ce qu'était la société coloniale au moment de l'arrivée de Fanon en 53 en Algérie, parce que ça me paraissait important dans les années 99-2000 que les gens, y compris de toutes les origines, aient une idée de la partition qu'était l'Algérie coloniale pendant toute la colonisation jusqu'en 1954-1955, avec le fait que faut bien dire, ça, on a complètement gommé que les Européens d'Algérie, comme on disait à l'époque, ne voulaient aucune réforme pendant des années. Il faut pas oublier que moi, je suis, comme vous l'avez dit, d'une famille juive des deux côtés. Mes parents, mes grands-parents ne connaissaient pas la France, aussi du côté de mon père. Oui, mon grand-père paternel allait de temps en temps, comme beaucoup d'ailleurs de petits bourgeois musulmans, comme on disait arabes, comme on disait à l'époque, prendre les eaux à Châtel-Guyon. Voilà. À Châtel-Guyon, c'était pour les intestins. Voilà. Et beaucoup allaient faire un petit séjour en France, à Châtel-Guyon, pour soigner leurs maux d'estomac et d'intestin. Voilà. C'est tout. Mon grand-père maternel, lui, n'avait jamais mis les pieds en France. Et les Juifs avaient été devenus français par le fameux décret Crémieux.
Voilà, justement, voilà. Il faut le rappeler pour les auditeurs. En 1870, alors que les Français sont arrivés 40 ans plus tôt en Algérie, le décret Crémieux ordonna que tous les Juifs d'Algérie, qui étaient jusque-là des sujets coloniaux, deviennent des citoyens français, laissant le statut d'indigène aux musulmans. Et aussi, il y a une autre caractéristique des Juifs algériens, c'est de subir en 1940, en plein régime de Vichy, l'abrogation de ce même décret Crémieux et de se retrouver pendant 2 ans en tant que juif indigène. Comment cette histoire était-elle vécue dans votre famille et par vous en particulier?
Justement, puisque, comme vous vous souvenez, j'avais dit la date fort respectable de ma naissance, voilà, qui montre que ça remontait quand même assez loin. Mais donc j'étais une petite fille à cette époque-là et... Mais on vivait, si vous voulez, sans aucune conscience. Les sphères ne se mélangeaient pas. Les Européens d'Algérie vivaient entre eux, les Juifs d'Algérie vivaient entre eux, les musulmans qu'on appelait communément, quelle que soit leur origine, berbère, kabyle, dumzab, etc., c'était tous des Arabes. Il y avait quelques contacts professionnels, etc., mais il n'y avait aucun, enfin, de mon souvenir, de petite fille. Il n'y avait pas de mélange des vies, pas de mariage mixte, c'était même pas pensable. Il y avait, ou s'il y en avait un de temps en temps, c'était dans le secret des familles, vécu comme une honte secrète, absolument. Mais c'était assez paisible, si vous voulez. Il n'y avait pas, c'était assez paisible. Moi, je me souviens que mes parents n'étaient pas très pratiquants, mais on allait chez le grand-père paternel pour certaines fêtes, qui étaient très joyeuses. Je me souviens des fêtes de Pessah, qui étaient absolument Pessah, la Pâque juive, qui était une très belle fête, dans laquelle mon grand-père me disait, je sais pas pourquoi il me choisissait moi, j'étais très fière, et il me disait, petite, tu vas aller jeter l'herbe amère. Parce qu'à un moment donné, dans la fête de Pessah, pour tous les maux, on va jeter l'herbe amère. Et moi, j'étais pas un épinard ou un pissenlit, je sais pas trop quoi. Et j'étais persuadée que, en jetant cette herbe par-dessus la balustrade, c'était une villa à Notre-Dame-l'Afrique, pour les Algériens, c'est important ce genre de souvenir, je jetais toute l'amertume du monde. C'était vraiment mon souvenir d'enfant de 4 ans, c'est ça. J'étais toute l'amertume du monde avec cette herbe. Mais effectivement, le souvenir traumatisant que j'ai eu l'occasion de beaucoup raconter, c'est l'école. L'école maternelle dans laquelle j'étais. J'aimais beaucoup l'école. Je sais pas pourquoi, j'aimais beaucoup l'école. Et un jour, c'était donc les lois de Vichy qui a été appliquée de façon extrêmement rigoureuse. Bon, on n'a pas connu le sort des juifs parisiens, des juifs d'Europe, etc. Mais quand même, ça a été appliqué, les décrets d'expulsion, de mise en application de l'expulsion des juifs de toutes les professions, le numerus clausus, l'expulsion des enfants des écoles, a été appliqué dès la sortie de ce décret en Algérie. Ça a été vraiment tout de suite. Et on s'est retrouvés, moi j'étais avec l'institutrice, me disant, j'étais même pas pendant les grandes vacances, c'était pendant les vacances de fin d'année, ce qu'on appelait les vacances de Noël, n'est-ce pas? Et l'institutrice me dit, tu diras à ta mère que tu reviendras pas à l'école à la rentrée. Alors, moi, ce souvenir que j'ai qui est très fort, je pense que tous les enfants de cet âge-là doivent, quelle que soit l'éducation nationale, avoir ce souvenir, interroger l'institutrice sur une question personnelle, c'est quand même une transgression majeure. Hein. Donc, je prends mon courage à deux mains et je lui dis, mais pourquoi, madame? Elle me regarde. Alors, moi, mon souvenir, effectivement, chignon, lèvres minces, lunettes, enfin bon, c'est caricature, mais c'est vrai. Enfin, c'est pas simplement un souvenir caricatural, elle était comme ça, robe noire. Et je lui dis, mais pourquoi? Alors elle me répond, c'est parce que tu es juive. Bon, pour moi, ça représentait rien du tout. Je connaissais pas du tout ce signifiant, comme on dit dans mon jargon. C'est quoi être juif? Moi, quand j'allais chez mon grand-père pour les fêtes, je pensais que tout le monde faisait la même chose. Hein. Je pensais que pas manger de pain, etc., à Pâques, c'était pareil. Je me demandais, mais c'est quoi, madame, être juive? Elle me dit, c'est comme toi. Avoir des grands yeux, une grande bouche et des grandes oreilles. Je ne sais pas, vous l'avez vu, les grandes oreilles, j'ai jamais eu les oreilles. Voilà. Donc, si vous voulez, tout de suite, le racisme biologique qui vient dans les oreilles d'une petite fille de 4 ans, voilà. Suivi par le silence des parents. Ma mère et mes parents étaient très tristes, même mon père était menacé d'être expulsé de son activité, enfin tout le monde s'était un peu extrêmement... Donc déjà, si vous voulez, s'inscrit un traumatisme, qui est un traumatisme qu'on n'a pas de mots pour représenter ce qui se passe. Quand on a 4 ans, on peut pas comprendre. On comprend des choses. Quand je vois mon père tout d'un coup affalé sur son lit pleurant, parce que non seulement il avait perdu son boulot, et que dans le même temps, son jeune frère et un de mes cousins qui avaient pris le même âge avaient été prisonniers en Allemagne. Parce qu'ils avaient été prisonniers. Alors moi, je comprenais pas comment, en même temps, On empêchait mon père de travailler, que mes oncles, que j'aimais beaucoup, eux, ils étaient prisonniers des méchants. Donc, c'était... Vous comprenez, tout ça était un peu... Faire... Où étaient le blanc et le noir, c'était impossible à faire une distinction. Qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon, qui était méchant, qui n'était pas méchant.
Du coup, on vous a retiré de cette école ou
pas ? Ah ben oui, 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 j'étais à l'école juive pendant... Ça aussi, j'en garde un souvenir. Je suis revenue après, je ne sais plus en quelle année, ça devait être en 43, où j'ai réintégré l'école laïque et républicaine, voilà, avec 2 ans d'avance.
Revenons juste peut-être rapidement sur votre famille. Quel métier faisait votre père ? Dans quel genre de ville vous évoluiez ?
Quel métier faisait mon père ? Ma mère me disait toujours, quand on te demande qu'est-ce que ton père fait, tu fais grossiste et exportateur. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. En fait, il était effectivement, il travaillait dans les légumes secs et les blés durs. Mon père travaillait dans ce qu'on appelait les voûtes d'Alger. C'était au port, c'était juste en face du port. C'était très beau d'ailleurs comme endroit. Et j'ai habité d'abord, il faut aller vite, je ne peux pas vous raconter tout ça très vite. Hein. On habitait d'abord quartier de la Marne. Voilà. C'était quartier de la Marne, en bas du lycée Bugeaud, qui s'appelle maintenant Abdelhader. Et c'était juste... c'était un quartier qui est devenu maintenant... qui fait partie de Bab El Oued. Au jour d'aujourd'hui, à Alger, c'est Bab El Oued. À l'époque, c'était très différencié. Mmh. Il y avait le quartier de la Marne, Babazoun, le quartier Bab El Oued qui commençait aux 3 horloges. Enfin, tout ça était très différencié à l'époque. Et puis, c'était un quartier populaire, à côté de Lazerge, voilà.
Et comment vous avez décidé de faire des études de médecine après ?
Oh, ça, c'est une très longue histoire. Déjà, quand j'étais lycéenne, j'avais pris conscience quand même de la ségrégation de la société dans laquelle on vivait. Toutes les petites copines que j'avais eues à l'école primaire, Khadija, Leïla, elles étaient, avec qui je jouais à la marelle, elles avaient été au cours complémentaire. Moi, je me demandais ce que c'était pour compléter quoi. Ça s'appelait le cours complémentaire. Et je me disais, mais c'est pour compléter quoi? Tandis que moi, j'ai été au lycée. J'étais au lycée de la Croix, en 6e, où il n'y avait pas d'arabe, où il fallait prendre latin, grec et anglais. C'était obligatoire. Et puis je voyais bien dans la rue comment les choses se passaient. Je veux dire, tous les gens dits, les hommes et les femmes, ils traversaient le quartier européen comme des ombres, je veux dire, transparents. Pour aller travailler, soit comme docker sur le port, soit comme femme de ménage. Il était transparent. Moi, c'était quand même un regard de petite jeune fille. Je me souviens que le 8 mai 1945, alors qu'on nous avait fait sortir des écoles avec des petits drapeaux pour fêter la victoire, je rentrais. Mes parents ne faisaient pas de politique à la maison, mais ils étaient plutôt de sensibilité de gauche, comme on dit. Voilà. Et mes grands-pères aussi. Mes grands-pères, ils étaient ratsocs. Ma mère avait travaillé avec les femmes du mouvement des femmes communistes. Elle n'avait jamais adhéré, mais pendant la guerre, elle avait travaillé avec elle. Mon père était socialiste de gauche, on peut dire. Il vouait un culte à Mendès-France en disant... voilà. Et quand je suis rentrée, après mes petits drapeaux, là, comme ça, je ne comprenais pas très bien pourquoi on nous faisait... Nous, c'était fini la guerre pour nous. Et mes parents faisaient une tronche, excusez-moi de cette expression un peu vulgaire, très sombre. Et je sentis qu'il s'était passé quelque chose qui ne leur avait pas beaucoup plu. C'est beaucoup plus tard que j'ai fait le lien entre le 8 mai 1945 et les événements de Guelma et de Sétif, et la tête de mes parents ce soir-là.
Alors, il faut le rappeler pour les auditeurs.
Alors, allez-y.
Le jour où a été signé l'armistice de la victoire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale à Sétif, ville de la région de Constantine, parmi les drapeaux tricolores, un manifestant qui brandit un drapeau vert et blanc marqué d'une étoile et d'un croissant rouge est abattu par un policier. Des manifestants sont dispersés, mais furieux, ils tuent 29 Européens. Une répression sanglante suit à Sétif, Guelma et Kerata. Les estimations des Algériens morts lors de ce massacre varient entre des milliers et des dizaines de milliers de personnes.
Mais 45 000, maintenant, tout le monde s'accorde à dire au moins 45 000.
Voilà. Mais ces massacres, les massacres de Sétif, ils marquent le début de la lutte armée pour l'indépendance de l'Algérie.
Ça a été... Oui. Vous avez bien insisté que c'est celui qui avait le drapeau algérien ou qui a été tué. Il a été tué. C'est à ce moment-là, alors qu'il simplement il avait mis un drapeau algérien. Ses premiers coups a été celui-ci. Et en plus, si vous voulez, moi qui ai eu à entendre après beaucoup d'années, après dans les années 90, des personnes qui, comme Kateb Yassine, mais c'est pas de lui dont je parle, il y en a eu d'autres plus anonymes qui ont été enfants et adolescents à cette époque-là. Ça a été pour eux le traumatisme qui les a fait s'engager ultérieurement dans la guerre d'indépendance. Un traumatisme d'enfants et d'adolescents qui les a fait s'engager après.
Donc c'était un peu inconsciemment, vous avez déjà senti qu'il y avait un malaise?
J'ai senti qu'il y avait un malaise que moi je ne pouvais pas nommer. À un moment donné, je voulais chercher quand même, comme quelqu'un quand on a 15 ans, 16 ans, il y avait le service civil international. Et j'avais obtenu la permission d'un père quand même assez maghrébin, hein, de l'époque, de pouvoir partir. Donc je suis partie au service civil international en Irlande. Et comme paradoxalement, c'était pour construire, comme quoi, à l'époque, je ne pensais pas du tout faire ni médecine ni psychiatrie, pour aider à restaurer un bâtiment pour enfants handicapés. Il y avait des gens venus du Ghana, venus d'Angleterre, venus des États-Unis, venus de partout dans le monde. Et déjà, il y avait eu l'indépendance du Ghana. C'était le moment où l'Angleterre avait accordé l'indépendance au Ghana, et déjà ça m'a donné une ouverture sur le monde. Vous savez, en Algérie, on ne voyageait pas, hein, chacun restait dans son coin. On allait visiter les parents en Kabylie ou à Tlemcen, très loin, mais les gens ne voyageaient pas beaucoup. C'était pas... Alors là, entre-temps, j'avais décidé non plus de faire les études littéraires pour faire médecine, et parce que je voulais être utile. L'homme, ça m'intéressait et je voulais être utile. J'étais quand même dans un pays où c'était indispensable de comprendre.
Pour vous, ça paraissait indispensable de comprendre. Ça paraît miraculeux, quelque part, que vous ayez pu avoir un éveil politique.
Ça dépend ce qu'on entend par politique. Moi, je n'ai pas adhéré à un parti. J'avais plein d'amis plus âgés qui, eux, avaient été au Parti communiste algérien. Mais... moi, je trouvais que le Parti communiste algérien à l'époque, c'est-à-dire c'est confirmé, méconnaissait la question coloniale. C'est-à-dire que c'était vraiment toutes les superstructures. Quand la lutte des classes sera accomplie, la question coloniale se résoudra par elle-même. C'était la doxa de l'époque quand moi j'avais 15 ans, y compris au Parti communiste algérien. Ça a un peu bougé après, mais... Donc, c'était pas mon... J'en discutais, hein, avec les plus grands. Puisqu'ils avaient 4 ou 5 ans de plus que moi. Mais je disais, non, vous méconnaissez ce que c'est que... Et j'ai vu, après, c'est là que... dans les bidonvilles de Bérardi. Et là, j'ai fait l'expérience concrète de ce que c'était que l'exclusion. Je voulais vous toucher ça vraiment de corps à corps. L'exclusion, la misère, pas d'eau courante, les enfants dénutris, aucune aide. Enfin, c'était la toute banlieue d'Alger. C'était pas des milliers de kilomètres, c'était la banlieue d'Alger.
Donc on peut dire que cette expérience, ça contribue à un déclic que vous avez eu.
Mais il y a eu beaucoup. Si vous voulez, tout ça, ça se fait par petites expériences. Il y a des Donc cet engagement s'est fait comme ça, tout à fait progressivement, à la fac, et même en première année, justement, on voyait bien, il y avait les groupes de fachos, et puis les groupes pour se retrouver avec fils d'émigrés espagnols, etc. On se retrouvait. On n'avait pas besoin de beaucoup parler. On savait que là, on était ensemble. Là, j'ai fait une double expérience. Oui, la première, c'est comme j'étais très jeune, que j'étais, paraît-il, pas trop repoussante physiquement. Il fallait que je me vieillisse. Donc, je mettais une blouse blanche trois fois trop grande pour moi, je me faisais un chignon, je mettais des grosses lunettes, voilà, pour que les patients me prennent au sérieux. J'ai découvert la ségrégation. Il y avait les salles pour les Européens et les salles pour les musulmans. À la fac, parce qu'on faisait les études à la fac centrale, tout le monde faisait des études à la fac centrale, qu'on soit qu'on fasse des études de lettres, des études de droit ou des études de médecine, on se retrouvait tous à la fac centrale à Alger. Mmh. Et moi, j'avais très, très facilement lié des liens avec tout un mouvement. On savait tacitement que l'on pensait la même chose, mais c'était tacite. On n'exposait pas nos opinions. Pendant longtemps, jusqu'en 56-57, on n'exposait pas nos opinions.
Vous avez dû, enfin, vous avez accepté de distribuer des tracts à un moment donné,
oui,
qui vous apportaient
chez
vous. C'était quoi ces tracts alors ?
Alors, c'était des tracts qui étaient. Ça, c'était en 55, hein, mm-hmm. C'était après le 1er novembre 1954. C'était des tracts qui adressaient aux Juifs d'Algérie. Ils avaient été édités en France par la Fédération de France de l'époque, enfin l'embryon de la Fédération de France, qui leur disait, vous faites partie de ce pays, vous êtes ici chez vous, vous serez là après pour l'indépendance, c'est votre pays, etc. Il n'y avait pas à rejoignez-nous, mais soutenez-nous. J'habitais encore chez mes parents, donc j'avais ces tracts que j'avais soigneusement, que je devais distribuer le lendemain, que j'avais soigneusement caché avec mes journaux d'adolescente dans un placard, mmh, dans ma chambre. Voilà. Et mon père, qui avait vu quand même que j'en faisais un peu comment... Non, j'étais polie à la maison, j'étais pas du tout... je ne sais comment, a trouvé ces tracts et m'a... Comment dire ? C'était même pas une convocation. Je me souviens, ça s'est passé dans l'entrebâillement de la porte de ma chambre et le couloir. Mmh. On était à Hydra, à ce moment-là. Et mon père me dit, ma fille, c'est pas possible, faut détruire ces papiers, tu comprends, je comprends tes positions. Il croyait que la guerre allait se terminer bientôt. Je dis, il était mandésiste à tout craint. Il disait, Mendès a fait la paix avec le Maroc et la Tunisie, ça va se faire comme ça en Algérie. Donc, tu comprends, mais il faut les détruire parce que moi, je suis père de famille, je dois élever tes deux frères et tout. Il faut pas nous mettre en danger, etc. C'était vraiment une tragédie à la Sophocle. C'était du Wajdi Wawad dans toute sa splendeur. Faut imaginer, moi j'avais 20 ans, lui, papa, je sais pas, j'étais pas vieux non plus à l'époque. Mmh. Voilà. Donc, j'ai compris que je voulais pas mettre ma famille en danger. À l'aube, j'ai pris mon sac et je suis partie. Voilà.
Vous avez décidé dans la nuit, comme ça, à partir ?
J'allais pas... Moi, c'était mon affaire. C'était pas l'affaire de mes parents, ni de ma famille. C'était pas... Oui, vous savez, Alger, bon, j'ai trouvé où aller. J'étais abrité de ci, de là, voilà.
Vous leur avez laissé un mot en partant ou vous avez disparu ?
Ils ont compris. Alger, c'est une petite ville, hein. Une petite ville, ils ont su que j'étais partie. Bon, je me souviens plus. On va pas. C'est trop long, tout ça. Voilà.
Quand vous voulez. Moi, ça m'intéresse particulièrement. C'est un moment crucial, quand même. C'est voilà. Vrai que vous êtes partie de chez vous.
Et puis, en plus, il faut dire que si ça, je l'ai aussi dit un petit peu discrètement dans le fanon, j'étais très, très, très embêtée par les étudiants de médecine particulièrement racistes et fachos. Il y avait. Ceux qui ne l'étaient pas, et ceux qui l'étaient. Mais ceux qui l'étaient étaient extrêmement virulents. C'est ceux qui ont fait partie du groupe de la Gaillarde, après, etc. Algérie française. J'étais très, très, très ennuyée à l'hôpital Parnès, c'était à l'époque. Mmh. subtiliser mes dossiers, crever les pneus de ma petite voiture, déchirer mes blouses. C'était pas... Bon, enfin, je risquais rien, mais enfin, je risquais... J'avais ces petits ennuis. Voilà.
C'était la même période que vous avez fui. Que...
Oui, c'est à peu près au même moment.
Oui.
Et puis, je faisais partie de... Alors, ne me donnez... Ça s'appelait l'AJAS, c'est-à-dire l'Association de la jeunesse algérienne pour l'action sociale, où il y avait des chrétiens progressistes, dont Pierre Chollet, beaucoup d'autres, Evelyne Lavalette, quelques juifs égarés, qui n'étaient pas au Parti communiste parmi les étudiants, et des scouts musulmans, beaucoup de gens qui étaient dans le scoutisme musulman, pour inventer l'Algérie future. Voilà. Et c'est là que Fanon, qui venait d'arriver en Algérie, non, il était là depuis un an ou un an et demi, est venu faire une conférence.
Voilà,
Voilà.
on va parler du coup de votre
Voilà.
rencontre avec France Fanon demain. Pour ce soir, je voulais quand même conclure sur votre éveil politique. Donc, c'est ce moment-là où vous êtes vraiment parti de chez vous, que vous avez
Oui.
20 ans, avec l'idée vraiment en tête de décider de vous séparer de votre famille pour ne pas les mettre en danger. Est-ce que c'est un moment qui est important pour vous?
C'est-à-dire que j'ai acquis à ce moment-là la conviction que l'Algérie, l'indépendance de l'Algérie était nécessaire et inéluctable. Donc c'était ma position. C'était pas du tout une position utopique, c'était un constat avec le réel. Je voulais, moi, je n'ai jamais été, comment dire, j'ai jamais été assigné à une idéologie. C'est vraiment chemin faisant que on découvre ce qu'on pense être juste. C'est ça ma démarche. C'est pas du tout être assigné à un parti ou à une idéologie. Alors on appelle ça l'utopie, mais je crois pas. Sauf si l'utopie, ça veut dire au bon sens du terme, c'est-à-dire penser quelque chose qui pourrait advenir, mais quand même. Si vous voulez, c'est vraiment. C'est pas. C'est un peu ça, pas du tout ce qu'on a voulu dévier.
Bon, nous en parlerons de la suite, donc de cette aventure exceptionnelle demain. Merci beaucoup, Alice
Exceptionnel,
Cherki.
je crois pas, non. Merci beaucoup à vous, j'ai
Singulière en
beaucoup
tout cas.
parlé, je crois.
Merci. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Ilana Navarro avec Alice Cherki. À voix nue, réalisation Rafik Zemine, prise de son Olivia Branger, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.